Pose ta tête.
Pose ta tête, l'émission qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière. Qui laisse passer la lumière.
Pose ta tête,
c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Studio Zef dans Pose ta tête saison 2. On est en avril, ne te découvre pas d'un fil.
Aujourd'hui, on parle des violences intrafamiliales. On a cherché une définition précise de ce qu'étaient ces violences. Cela désigne une forme de violence commise par une personne ayant un lien de famille au sens large avec la victime, par un conjoint, ex-conjoint, père, mère, fille, fils, oncle, tante, etc. Que cette personne réside ou non avec la victime. Elles incluent les violences conjugales. Nous avons eu la chance de recevoir l'adjudante Pelloso de la Maison de protection des familles de Romorantin et de lui poser toutes nos questions. On a préféré garder l'interview en entier car tout ce qui est dit est intéressant. Donc pour cette fois, pas de rubrique, mais une interview complète.
Alors, quelques chiffres. En 2025, 473 000 victimes de violences physiques ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie, soit une augmentation de 5% par rapport à 2024. 54% des victimes ont subi ces violences dans le cadre familial. Plus de la moitié des violences physiques envers les mineurs se produisent au sein de la famille. Jusqu'à 63% pour les moins de 15 ans. Autrement dit, pour les plus jeunes, le danger principal n'est pas dans la rue, mais à la maison. On écoute donc l'adjudante Pelloso.
La santé mentale n'est pas un gros mot.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir l'adjudante Pelloso Priscilla de l'unité de la Maison de protection des familles. Bonjour Priscilla.
Bonjour.
Tu peux te présenter s'il te plaît ?
Oui, bien
sûr.
Ton
unité, ton rôle en fait.
Alors moi, je suis l'adjudante Pelloso, je fais partie de la Maison de protection des familles. Je suis une unité de la gendarmerie. Alors je suis basée à Romorantin-Lanthenay. Mais j'ai vocation à travailler sur l'ensemble du département. Donc j'interviens aussi sur le Vendômois et également sur le Blésois. Et on est une petite unité de actuellement 4 militaires. On est 3 femmes et 1 homme. Et pour décrire un petit peu mes missions, elles sont plutôt variées. On a beaucoup de missions. On a une première mission qui est de la prévention. Donc on va intervenir auprès d'un public assez varié. Les mineurs, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes vulnérables comme les femmes et les hommes victimes de violences également, dont on va parler un peu plus loin dans cette émission. Et on intervient sur plein de thématiques différentes. Ça va être le harcèlement, cyberharcèlement, les dangers d'Internet, tout ce qui est addiction également, discrimination. On intervient également sur les violences, donc que je vais détailler un peu plus loin, le consentement. Enfin, en fait, on est à la demande des personnes qui nous sollicitent, tout simplement.
D'accord.
Donc ça, c'était ma première mission. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de missions et qu'elles étaient variées.
Allez-y.
La deuxième mission que nous exerçons, c'est les auditions de mineurs. Donc ça, c'est des auditions particulières. La loi prévoit qu'elles soient filmées. Donc les auditions de mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel. Donc on a des salles prévues à cet effet dans le Vendômois, dans le Blésois et à Romorantin. Et ces auditions sont faites par des enquêteurs qui sont formés. Donc on est formé à recueillir la parole du mineur pour ce type d'infraction. Donc on est vraiment en appui des brigades de tout le département pour les aider à procéder à ces auditions. Voilà. Et après, on a une dernière mission qui est tout ce qui est formation. On entretient le réseau des partenaires, notamment sur les violences intrafamiliales. On essaye de se créer un gros réseau de partenaires sur le département.
Mais pour les enfants, les ados qu'on fait, et enfants, ça doit être particulier quand même.
Oui, eh ben les enfants, on commence à les entendre à partir de 3 ans. Donc 3 ans, c'est particulier, hein. Ils sont très jeunes, il faut vraiment adapter. Alors on travaille avec un protocole pour ce type d'audition, donc on s'appuie vraiment sur ce protocole, mais il faut l'adapter en fonction de l'âge, de la capacité de compréhension de l'enfant. 3 ans, c'est très compliqué, hein. Ils sont assez actifs, il faut garder la concentration, aller à l'essentiel, mais en même temps faire attention aux questions auxquelles on pose, adapter le vocabulaire. Et on entend donc les enfants jusqu'à 17 ans, 18 ans, 19 ans, même si ils ont un handicap, par exemple, qui nécessite une audition. Pour vous décrire un peu l'audition, on n'est pas derrière un ordinateur à taper l'audition de l'enfant. On est vraiment dans une salle aménagée à la libération de la parole. Et c'est en fait finalement une petite discussion avec le mineur.
Puis après, c'est sûr qu'il faut arriver à le faire parler, en fait.
Oui, bah c'est là tout le challenge, parce que on a donc ce protocole, il est assez bien construit. On a une première phase d'accueil où on va vraiment mettre à l'aise l'enfant. Là, il faut, c'est un peu le challenge. L'enfant est très stressé, hein, et il n'a pas nécessairement envie de parler de ce dont il a vécu, surtout à une personne qu'il ne connaît pas. Et là, c'est assez difficile, c'est voilà, de le mettre à l'aise, de lui expliquer que ça va bien se passer, qu'on est là pour discuter, on est là pour l'aider, l'écouter et le protéger.
La confiance.
Exactement. Donc cette phase, on s'adapte vraiment à l'enfant. Elle peut durer une dizaine de minutes. Si l'enfant est vraiment stressé, on va prendre plus de temps. Il n'y a aucun souci. On est là pour l'enfant de toute façon. Hein. Donc ça peut durer 20, des fois même 30 minutes si besoin. Et après, on arrive au fait et on travaille vraiment en fonction de ce que nous dit l'enfant. Donc si l'enfant n'a pas du tout envie de parler, qu'il n'est pas prêt, bah, il n'y a aucun problème, on arrête l'audition et puis on programme un autre rendez-vous si l'enfant est prêt.
Ça doit être aussi, ce qui doit être très particulier aussi, c'est doit être au niveau des femmes aussi, je pense, battues.
Oui.
C'est pas évident aussi de dire, bah voilà, je viens vous voir parce que...
Et exactement. Alors, pour préciser, nous, on n'est pas une unité qui prenons des plaintes, on le fait vraiment à la marge.
Parce que, comme c'est-à-dire, excuse-moi, j'ai pas bien compris, à la marge.
Alors, pour vous expliquer, on est une unité d'appui aux brigades, en fait. Nous, on est 4 militaires et vous voyez, dans mes missions, on a beaucoup de prévention et beaucoup d'auditions de mineurs. Donc, on ne peut pas prendre toutes les plaintes des femmes et des hommes victimes de violences. On le fait vraiment à la marge quand il y a des difficultés particulières. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, nous, les femmes et les hommes victimes de violences viennent déposer plainte dans la brigade compétente. Maintenant, ces personnes-là n'ont pas toujours envie de se rendre en unité de gendarmerie. Peu importe la raison d'ailleurs, elles n'ont pas toujours envie de se rendre dans ces unités-là. Généralement, elles vont dans les associations locales où parfois elles se sentent plus à l'aise. Et les associations, quand elles entendent qu'il y a une infraction pénale et qu'il y a une importance capitale quand même à déposer plainte, elles nous renvoient les personnes. Donc nous, dans notre unité, on a... une pièce spécialement créée pour l'accueil de ces personnes. Donc vraiment avec voilà, des fauteuils, un coin jeu pour les enfants, puisque dans les trois quarts du temps, on va dire que c'est quand même des femmes qui sont victimes de violences. On reçoit également des hommes, hein, mais en majorité, c'est des femmes qui viennent. Et ces femmes-là, elles viennent quand leur compagnon n'est pas présent. Et souvent, elles ont des enfants. Donc elles ne peuvent pas laisser les enfants à la maison
tout seul. Il faut le cacher,
Exactement. Donc, elles viennent avec leurs enfants dans l'unité. Donc, c'est pour ça qu'on a un coin dédié pour les enfants. Et nous, on va s'entretenir avec la personne. Et en fait, en fonction de ce qu'elle va nous dire, s'il n'y a pas de pénal, puisque nous, on travaille pour le judiciaire. Donc, s'il n'y a pas de pénal, on n'est pas, on va renseigner la personne et la renvoyer vers des partenaires qui pourront l'aider. Si c'est du social, par exemple, le logement, des aides financières par rapport aux enfants, on va renvoyer la personne vers le partenaire qui pourra l'aider. En revanche, s'il y a du pénal, on va l'inviter à se rendre à la gendarmerie compétente. Éventuellement, on peut même se présenter avec elle à la gendarmerie.
Quand
si,
vous dites compétente, ça veut dire où elle demeure, en fait, où elle réside.
C'est ça, ou toute autre gendarmerie, elle peut déposer plainte. Quand je dis elle, c'est la personne, hein, puisqu'il y a autant, il y a des femmes et des hommes.
Oui.
La personne peut déposer plainte dans n'importe quelle gendarmerie. Après, ça sera la gendarmerie de son lieu de résidence qui sera compétente pour traiter le dossier. Mais elle peut déposer plainte n'importe où. Donc, s'il y a même besoin, on peut se présenter à la gendarmerie avec elle. Après, quand je disais on prend des plaintes à la marge, c'est voilà, la personne se présente avec nous, on voit que ça se passe plutôt bien, il y a un lien de confiance qui se crée. On sait que si la personne, on lui dit d'aller déposer plainte de suite et qu'elle n'ira pas, et que si on fait sortir cette personne de notre unité, elle ne le fera pas, on va perdre la personne en fait. Hein. Bah là, il n'y a pas de problème, on a des ordinateurs, on est compétent aussi, hein. On prend le dépôt de plainte. Si elle souhaite déposer plainte, bien sûr. À minima, on essaye de prendre une audition, on invite vraiment la personne à à déposer, en fait.
Il Sauf faut que si ce elle soit est vraiment en danger, quoi, en fait.
Alors, si elle est vraiment en danger, il faut que la personne fasse le 17 et là, qu'il y ait une unité de gendarmerie qui va intervenir chez elle. On a des hébergements d'urgence. On a vraiment tout un système pour l'urgence.
Et est-ce que ça arrive que dans les auditions, ça se passe mal? Parce que je pense que déjà, la personne qui vient vous voir, elle est déjà très mal. Et est-ce que ça y fait pour l'audition qu'elle ne veut pas parler ou qu'elle est agressive ou je ne sais pas
Alors, agressive, ça ne m'est jamais arrivé.
D'accord.
Après, évidemment, c'est des faits qui sont difficiles à dévoiler. Donc, des auditions qui sont très longues. Hein. On n'est pas sur des auditions qui durent une heure.
Il peut se faire sur plusieurs jours, même à la limite.
Oui, tout à fait. Oui. Parce que la personne, des fois, elle vient dans notre unité. Donc, elle veut dénoncer les faits dont elle est victime. Mais elle va nous annoncer que, par exemple, son conjoint rentre dans une heure.
D'accord.
Donc, en une heure, c'est très compliqué de faire une audition très détaillée. On fait un peu un peu la vie antérieure de la personne, savoir comment elle en est arrivée à cette situation. Déjà, rien que ça, ça prend un petit peu de temps. Et après, on traite tous les faits. Le but, c'est d'avoir le maximum d'éléments pour pouvoir caractériser l'infraction, tout à fait. Donc ça, ça prend vraiment du temps. Donc, c'est pas grave, on explique à la personne, pas de souci. S'il y a une heure, nous, on se base sur une heure, il n'y a aucun problème. On essaye de récolter le maximum de faits en une heure. D'éléments, pardon, et on reconduit d'un rendez-vous si la personne est d'accord. Comme ça, on a d'autres éléments sur une autre audition, il n'y a aucun problème, on peut faire en deux, trois auditions s'il faut.
D'accord, merci. Comment peut-on définir une situation de violence intrafamiliale ? Qu'est-ce que c'est en fait ?
Alors, les violences, elles vont prendre plusieurs formes. On pense souvent aux violences physiques, donc à savoir tout ce qui est bousculade, frapper, taper, gifler. Et souvent, pour les personnes victimes de violences, elles attendent la violence physique pour déposer plainte.
Pour agir, en fait.
Exactement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, elles se disent,
c'est trop.
Voilà, c'est trop. Elles attendent ça. Mais généralement, il n'y a pas que de la violence physique.
L'invisible.
Exactement, il va y avoir de la violence verbale, donc c'est tout ce qui va passer par les insultes, mais également de la violence psychologique. Donc là, on n'est pas sur des insultes, mais on va être sur tout ce qui est rabaisser la personne, humilier la personne, se moquer d'elle en public. Des fois, j'ouvre les guillemets, mais sous le couvert de la rigolade, et voilà, la personne qui a, comme vous disiez, l'emprise, qui est auteur des faits finalement, hein. Il va mettre ça sous le ton de la rigolade, parfois, en disant juste
se moquant. Des fois, c'est surprenant, quoi. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. C'est une super personne, en fait. Et puis, chez lui, c'est un monstre, quoi.
Voilà, c'est ça. Et de toute façon, au début de la relation, c'est souvent l'agresseur n'apparaît pas comme, voilà. Comme vous le disiez, comme
c'est
un monstre.
Les oreilles au-dessus de la tête, tout ça.
Au début de la relation, ça se passe très généralement. Il y a toujours des exceptions, mais très généralement, ça se passe plutôt bien. Et c'est comme ça que cette personne va établir son emprise sur la victime. Petit à petit, les violences vont s'instaurer.
C'est de ta faute. C'est toujours de ta faute.
Exactement.
Voilà.
Culpabilise la personne, quoi.
Voilà,
oui,
ça.
Oui, oui. Bah, de toute façon, il y a tout un cycle de la violence. Ça va commencer, voilà, par des tensions, des excès de colère, des silences lourds. Ce que je disais, voilà, par exemple, les moqueries, le fait d'être rabaissé. Cette phase, elle peut être plus ou moins longue chez les personnes. Des fois, ça peut durer quelques jours, des fois quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et après, on passe sur une phase d'agression. Donc là, ça va être, par exemple, la gifle, ce qui va mettre un peu le feu aux poudres. Et après, il va y avoir une phase de réconciliation. Donc, de justification, voilà, l'auteur va dire « Non, mais si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'as poussé à bout,
tu t'es
comporté comme ça. » Voilà. Il va vraiment rejeter la faute sur la victime. La victime, qu'est-ce qu'elle va penser ? Effectivement, c'est ma faute. S'il a fait ça, c'est parce que j'ai mal agi.
C'est comme un petit enfant, quand tu lui dis, tu lui fais dire tous les jours, t'es un abruti, t'arriveras à rien. Au bout de 5 ans, 6 ans, il finit par le croire, quoi, en fait.
Mais je vous dirais même que c'est même sur un adulte, pas nécessairement un enfant, quand on nous dit tout le temps qu'on est
non,
nul.
C'était pour
rejoindre,
en fait.
Mais oui.
C'est un peu de la manipulation.
Ah, mais tout à fait. Tout à fait. L'agresseur, il instaure une emprise. Donc, ça ne se fait pas en quelques jours. Ça prend un certain temps selon les personnes et selon la méthode d'instauration de cette emprise. Mais la victime, elle se sent complètement dépendante de son agresseur, finalement. Elle va vraiment se dire, oui, en fait, c'est ma faute. Elle va ressentir de la culpabilité, de la honte. Et suite à cette phase de justification, il va y avoir un peu la phase de réconciliation, où là, l'agresseur va essayer de se faire pardonner, il va offrir des fleurs, il va être un peu plus doux, un peu plus gentil.
Il sort le resto, machin.
Exactement. Donc la victime va se dire, ça y est, c'est redevenu comme avant, je ne vais pas le quitter. Là, on est reparti sur un bon pied. Et comme je vous ai expliqué, c'est un cycle. Donc on repart ensuite sur des phases de tension.
Et vous pensez que la personne qui agit comme ça, on est conscient, il sait ce qu'il fait ? Qui fait ou qu'a fait
Alors ça, je ne pourrais pas répondre puisque chaque personne a sa propre perception.
C'est ça.
Certaines personnes en sont conscientes. Elles savent qu'il y a quelque chose de peut-être toxique, malsain. Je ne sais pas quel mot exactement employer. Elles savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Mais pour autant, certaines personnes, elles ne connaissent que ça. C'est un environnement pour elle, parfois, qui est sécurisant.
Habituel.
Je comprends.
C'est habituel. Ça, en fait. C'est plus sécurisant de rester dans cet environnement qu'elles connaissent plutôt que de partir dans quelque chose qu'elles ne connaissent pas.
C'est la seule chose que je connais, c'est la seule chose en quoi je crois, en fait. Tu vois ?
C'est ça. Et c'est d'autant plus compliqué quand il y a un mariage, quand il y a une maison, un appartement qui a été payé par les deux, un crédit et des enfants.
Voilà. Et puis des menaces aussi peut-être. Si tu pars, je vais garder les enfants.
Très souvent, l'agresseur.
T'es pas capable de t'occuper des enfants toute seule, t'es une bonne rien.
Tout à fait.
C'est un engrenage en fait, c'est ça.
Et le levier, c'est vraiment. Les enfants sont vraiment un levier très très fort. L'agresseur va vraiment jouer sur les enfants. Et alors, la femme victime de violence, généralement, c'est une femme. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est garder ses enfants auprès d'elle. Donc, elle va accepter tout ce qu'elle subit pour...
Leur rendre ses enfants.
Voilà, exactement.
Et du coup, est-ce qu'une personne qui vivrait à la maison comme ça, des menaces physiques ou bien des insultes, mais sans que ça vienne au coup, est-ce qu'elle peut quand même faire appel à vous et venir déposer plainte? Est-ce qu'on peut déposer plainte tant qu'il n'y a pas eu d'agression physique?
Bien sûr. Comme j'ai expliqué, il y a plusieurs types de violences. Il y a des violences verbales, donc physiques, psychologiques. C'est vrai qu'on est parti sur autre chose, mais il y a également des violences sexuelles. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Il y a également tout ce qui est violence économique, administrative. Donc, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un type de violence, la personne peut déposer plainte, tout à fait.
Okay.
Alors, effectivement, pour ce qui est. Puisqu'après, en gendarmerie, il va y avoir le dépôt de plainte et les gendarmes vont avoir tout un travail de recherche de preuves. Pour mettre des billes en fait au dossier qui sera présenté ensuite au tribunal, donc au procureur de la République. Le procureur de la République va regarder si les éléments vont matérialiser l'infraction. S'il n'y a pas ces éléments-là, l'infraction ne pourra pas être retenue. Donc c'est pour ça que c'est très important, on dit souvent à la victime, de nous fournir par exemple un certificat médical. Mmh. S'il y a des violences physiques, de prendre des photos. Le certificat médical, par exemple, c'est vraiment une excellente preuve pour le dossier. Ça va attester et sur le physique et sur le mental. Le médecin est tout à fait capable d'attester.
Et est-ce que ça peut aller loin, je veux dire, jusqu'au décès est-ce que vous avez déjà eu des choses comme ça, des personnes qui sont décédées sur les coups de son conjoint?
Alors moi, personnellement, alors on sait que ça existe. Ça, on le voit régulièrement sur les médias. Moi, personnellement, dans ma carrière qui est assez récente aussi,
oui.
Hein, j'ai pas beaucoup d'années de gendarmerie, mais dans ma carrière, non. Heureusement, j'ai encore jamais eu ce genre de dossier.
Mais c'est arrivé quand on l'a vu nationalement, quoi. C'était sur le journal.
Oui.
Femme battue. Y a-t-il des cellules spécialisées dans le recueil des situations de violence intrafamiliale dans toutes les gendarmeries de France?
Alors, je dirais que déjà, chaque département fonctionne un peu différemment. Pour vous donner un exemple, c'était le cas il y a un certain temps dans le Loir-et-Cher, on avait des cellules, ce qu'on va appeler des cellules vives. C'était des gendarmes qui provenaient des unités donc, du département et qui étaient regroupés pour ne traiter que des dossiers de vifs. Malheureusement pour notre département, ces cellules n'ont pas pu continuer à être mises en place, mais elles existent dans d'autres départements. Alors il y a des départements qui en ont et des départements qui n'en ont pas, malheureusement. Après, dans toutes les unités gendarmerie, dans toutes les brigades, les personnels sont formés à recueillir la parole des victimes de vifs. Ça, il n'y a aucun problème.
Donc ce n'est pas une formation particulière, en fait?
Alors, il en existe. En fait, dès l'école de sous-officiers de gendarmerie, on apprend aux gendarmes à recueillir la parole des victimes, donc d'une part. Et moi, ce que j'ai connu il y a quelques années, c'est des gendarmes qui sont venus dans mon unité pour nous former en plus sur les vifs. Et on peut également, si vraiment on a une appétence pour cette thématique... être formé en plus. Moi, j'ai suivi une formation d'une semaine à Rosny-sous-Bois sur les mécanismes des vifs. Donc, on peut tout à fait se former. Alors, c'est sur la base du volontariat, cette formation, puisqu'elle elle a un certain coût et elle dure une semaine. Mais les gendarmes peuvent tout à fait se former en plus.
Et est-ce que vous avez des compétences au niveau psychologie par rapport aux personnes que vous recevez pour les faire éventuellement parler ou...
Alors, dans cette formation qui dure une semaine, on aborde assez brièvement le côté psychologique, notamment les profils des auteurs, On aborde aussi la raison pour laquelle les personnes victimes de violences ont du mal à déposer plainte. Mais après, effectivement, on n'a pas de formation sur le volet psychologique. Ça, on n'a pas cette formation. Pas encore, en tout cas.
Féfé, je te soupçonne d'espionnage. Là, c'était ma troisième question, ça, mais c'est bien. Merci. Moi, ça, ça m'évite de la reposer. Que faire si on est confronté à ce genre de situation? Peut-on appeler pour quelqu'un d'autre?
Oui, bien sûr. Prenons la situation où vous entendez des cris chez votre voisin, donc un couple par exemple. Vous pouvez et vous devez même faire le 17 pour qu'une patrouille de gendarmerie intervienne. Parce que si vous entendez des cris, c'est que probablement il y a danger pour au moins une des deux personnes, voire plus s'il y a des enfants dans le foyer. Donc oui, il faut, c'est même le devoir du citoyen d'aider ses voisins et ses prochains même.
Et sur le vent de moi, vers qui se retourner quand on a affaire à des genres de situations?
Alors, même réponse, que ce soit dans le vent de moi ou ailleurs, s'il y a une situation d'urgence ou même un doute. Voilà, on entend des cris, on ne sait pas réellement ce qui se passe. On soupçonne quelque chose, on n'est pas sûr. C'est pas grave, on fait le 17. La patrouille de gendarmerie va se présenter et c'est la patrouille de gendarmerie qui va voir voilà, s'il y avait urgence ou pas. Et s'il y a réellement urgence, on a tout un système après d'hébergement d'urgence pour mettre la personne victime hors de danger.
La protéger, quoi.
Voilà. S'il y a une agression en cours, on peut mettre l'auteur des faits en garde à vue. Il va y avoir la procédure qui va démarrer. Donc, comme ça, ça permet à la gendarmerie d'intervenir directement.
D'accord.
Maintenant, on peut aussi contacter... on peut aussi faire le 17 ou contacter la gendarmerie compétente si on a la moindre question. On n'est pas uniquement là pour intervenir... En présentiel, on est là aussi pour répondre, pour rassurer les personnes qui se poseraient des questions. De la même manière, pour mon unité, donc moi je ne suis pas une unité d'intervention, vous l'avez compris, mais les personnes victimes de violences peuvent tout à fait m'appeler pour me demander des conseils, des renseignements, pour être rassurées peut-être. Il n'y a aucun problème, on est là pour répondre.
D'accord.
Si par exemple on a quelqu'un dans sa famille ou dans son entourage qui nous parle un peu de violence à la maison mais sans vraiment le dire, est-ce qu'on peut quand même vous appeler pour avoir des conseils, peut-être savoir comment ça se passe pour après rassurer la personne de notre famille et qu'elle puisse ça puisse être facilitant pour qu'elle vienne nous voir après quoi.
Tout à fait.
Pour des conseils quoi.
Tout à fait. Vous pouvez nous appeler pour des conseils, des renseignements. On peut même également, je peux vous proposer par exemple de prendre contact avec la personne de votre famille. Mm-hmm. Si elle veut me parler au téléphone, si elle veut me rencontrer, je peux éventuellement me déplacer. Je vous avais dit que j'étais à Romorantin, mais on est très mobile sur le département et je peux également me déplacer.
D'accord.
Avez-vous autre chose à dire ou des messages à faire passer, des conseils à donner?
Alors, le seul message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se rendre en gendarmerie. Et vraiment, j'insiste sur le fait que les militaires sont vraiment formés à recevoir les personnes victimes de violences intrafamiliales. On est vraiment là pour prendre le temps de les écouter et de les protéger. Et surtout, il ne faut pas hésiter à faire le 17 ou à se rendre en gendarmerie et à lancer les démarches. Ces personnes-là, elles ont souvent des craintes, mais pour que les violences s'arrêtent, il faut en parler. Et nous, on est l'acteur parfait pour faire cesser ces violences.
La parole libère.
Exactement.
Moi, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci d'avoir bien voulu être présente aujourd'hui. Ce n'était pas évident. Merci beaucoup. Merci pour votre travail.
Merci à vous.
Merci pour votre travail. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, on vous donne le numéro de téléphone de la Maison de protection des familles et on vous rappelle que vous pouvez appeler juste pour des conseils. 02 54 94 13 60.
Et on vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous comme des autres. Cette émission sera disponible les lundis du mois d'avril à 13h sur Studio ZEF. Fréquence 91.7 à Vendôme et 91.1 à Blois. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site de Studio ZEF.
Et au mois d'avril, tu peux aussi te mettre les deux doigts dans la prise, si tu veux.
On vous dit au revoir et surtout, n'oubliez pas de...
Poser votre tête.
Poser votre tête. Salut, salut, salut.
Au Post-à-tête,
l'émission qui laisse passer la lumière.
Post-à-tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.
Qui laisse passer la lumière.
Post-à-tête, c'est l'émission qui laisse passer la lumière.